Il paraît que c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Et... Effectivement, mais il n'empêche qu'après quelques semaines d'absence, j'ai un peu perdu tous mes réflexes. Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne de Graphite. Je m'appelle Jean-Noël, je vous retrouve sur l'antenne pour cette nouvelle saison. C'est un peu la période de la rentrée sur Graphite. Toutes les émissions reprennent depuis quelques jours. Biotine, l'émission d'actualité scientifique, eh bien ça reprend aujourd'hui. Alors j'ai écouté Enrique quand je suis venu en voiture, ce qui m'a permis encore de me faire flasher au moins 40 fois. Parce que je roule toujours trop vite quand j'écoute Enrique, je sais pas pourquoi. Une espèce de pêche dans cette émission qui fait que je ne maîtrise pas toujours tout en fait sur la route. Et je t'écoutais Enrique tout à l'heure, tu parlais de la 247e émission déjà pour toi. 250 bientôt, alors un quart de siècle j'allais dire, en tout cas un quart de millénaire pour cette émission de VibraSOS. Eh bien félicitations Enrique. Et en ce qui concerne Biotine, j'ai pas calculé le nombre d'émissions, mais elle a démarré en octobre 2008. Je commence à faire partie des meubles, tu vois, quelque part. J'ai un peu l'impression que je sais pas, on va peut-être m'oublier un jour dans un placard parce qu'on va se dire qu'est-ce qu'il fait encore là.
Je retire l'étoile d'araignée.
Tu m'étonnes. Ça fait 3 mois que je suis enfermé dans le studio. Ouvrez-moi. En fait, l'émission d'actualité scientifique, ça n'arrête pas au niveau de l'actualité scientifique. On s'est donc absenté pendant cet été et on va faire le point sur l'information scientifique qu'il y a eu cet été. Il y a eu le lancement d'Ariane 6. Il y a eu la sortie spatiale de Civil pour la première fois de l'histoire. C'était cette semaine, je pense que vous avez vu ça. On a fait des souris transparentes. On a parlé de la variole du singe. On a enfin la solution pour l'éradication des punaises de lit. On a des déserts qui sont menacés par des inondations. On a la Chine qui est également au cœur de l'actualité scientifique. Donc on va parler de tout ça dans cette émission d'une heure. Et je regardais un petit peu les sites d'actualité scientifique. Il y a pas mal de sites, et notamment Futura Science, qui a annoncé il y a quelques minutes, et je n'ai pas encore eu le temps de bien développer ça, il y a un astrophysicien qui dévoile les secrets de la composition de l'espace. Ça va être un peu la première fois où on va savoir ce qu'il y a dans l'espace. Il n'y a pas que du vide. Et en fait, il y a plein d'éléments. Alors, on n'évoquera pas ça aujourd'hui, parce que je n'ai pas eu le temps de bien lire en détail cet article. Mais voilà, tout ça pour vous dire qu'en fait, l'actualité scientifique ne s'arrête pas. Et c'est pour ça que cette émission, elle a cette utilité de pouvoir se tenir informé pendant une petite heure de l'actualité scientifique. Alors, les sujets ne sont pas toujours simples à appréhender par le média radio, parce que c'est uniquement par une explication de texte, entre guillemets. Mais quelque part, on va finalement à l'essentiel de l'information scientifique et on essaye un petit peu de s'habituer régulièrement à ce que représente la recherche scientifique et technologique en France et dans le monde. Et comme ça, ça nous permet d'appréhender un petit peu mieux notre société, notre histoire contemporaine. La science est au cœur de l'actualité. Il ne faut pas se leurrer, même si on n'en parle pas nécessairement toujours parce qu'on parle d'autre chose. Il faut dire quand même que les derniers événements qui concernent ces dernières années on concernait la science, faut pas se leurrer. Et du coup, voilà, cette émission Biotine pour toutes les semaines pendant une heure, on essaye un petit peu, voilà, de nous informer, de comprendre un petit peu comment fonctionne cette recherche scientifique et technologique. Et ce qui est annoncé dans les articles de presse qu'on évoque dans cette émission, c'est ce qui va nous concerner dans notre vie quotidienne dans un temps plus ou moins long. Et c'est ça qui est intéressant, parce que quelque part, on est un petit peu informé de notre propre avenir. C'est une émission un petit peu de médium, quelque part. On sait ce qui nous attend dans quelques temps. Voilà, très brièvement, le but de cette émission Biotine sur l'antenne de Graphite. Vous nous écoutez en direct aujourd'hui sur le 94.9 pour la bande FM et graphite.net pour ceux qui nous écoutent soit en direct, soit en différé avec les podcasts. Et donc, tous les samedis, entre 12h et 13h, c'est la reprise de Biotine. Comme tu le disais, Enrique, Graphite est présent au Forum des associations en ce moment. Il fait beau en plus, et tant mieux pour eux. Il y a sûrement beaucoup de monde, parce qu'on a vraiment beaucoup aidé à se garer, en fait, aux alentours des studios. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde, et donc que vous pouvez retrouver l'équipe de Graphite sur le Forum des associations de Compiègne, ce qui vous permet un petit peu de vous informer sur votre radio curieuse, sur les programmes. Instagram. Et puis éventuellement, si vous êtes intéressé pour rejoindre l'équipe et proposer une émission, mais écoutez, vous les rencontrez directement sur le site du Forum des associations. Voilà en gros pour cette introduction. Nous sommes donc aujourd'hui le 14 septembre. Au niveau de l'éphéméride, il n'y a pas grand chose qui s'est passé un 14 septembre, d'un point de vue science et technique, bien évidemment. Mais on a quand même des naissances assez intéressantes, et notamment la naissance un 14 septembre 1849 d'Ivan Petrovitch Pavlov. C'est un médecin et un physiologiste russe. Il a été lauréat du prix Nobel de médecine en 1904. Et en fait, Pavlov, ça nous dit un peu quelque chose, ce nom-là. Il faut savoir qu'au cours des années 1890, Pavlov, il va réaliser une expérience sur la fonction gastrique du chien. En recréant, grâce à une fistule, il va recréer un petit peu un peu de salive pour mesurer et analyser cette salive qui est produite dans différentes conditions en réponse aux aliments qu'on va présenter aux chiens. Et en fait, on a remarqué que les chiens avaient tendance à saliver avant d'entrer réellement en contact avec les aliments. Et donc Pavlov, il va décider d'étudier plus en détail cette espèce de sécrétion qu'il appelle une sécrétion psychique, c'est-à-dire qu'il y a une sécrétion de salive avant même que les aliments soient présentés. Et il s'avère que ce phénomène était plus intéressant que la simple chimie même de la salive, parce que ça va le conduire à modifier ses objectifs de recherche. Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'il a fait des expériences assez longues, assez nombreuses, et il va varier un petit peu le dispositif expérimental. Il va faire plusieurs expériences avec ses chiens. Et notamment, il va faire plusieurs expériences de présentation des aliments que l'on va proposer à ses chiens. Et c'est ainsi qu'il va découvrir les lois fondamentales de l'acquisition et de la perte des réflexes conditionnels. Ça, c'est le terme un petit peu scientifique. C'est-à-dire que les réponses un peu réflexes, comme le fait de saliver, eh bien, ça ne se produisait que de façon conditionnel dans des conditions expérimentales spécifiques chez l'animal. Et ces expériences, elles ont donc été réalisées sur pas mal d'années, hein. Les années 1890, les années 1900 également. Et elles ne furent connues des scientifiques occidentaux que par des traductions qui ont été isolées de façon un petit peu ponctuelle. Et c'est qu'en 1927, donc on est quand même largement tardif, avec un recul assez long, que ces expériences ont été traduites en anglais, et à partir du moment où on a pu le traduire en anglais, on a pu diffuser ces nouvelles expériences scientifiques un petit peu dans le monde. Il est quand même entre-temps prix Nobel lauréat de médecine en 1904 en reconnaissance de son travail sur la physiologie de la digestion, ce qui a permis de transformer et d'élargir le savoir sur les aspects essentiels du sujet. Et donc, les travaux de Pavlov sur les réflexes conditionnels ont une grande influence, non seulement sur la science, mais également sur la culture populaire, parce qu'on utilise souvent cette expression « le chien de Pavlov ». C'est là que ce nom nous dit quelque chose. Le chien de Pavlov, ça décrit quelqu'un qui réagit de façon instinctive à une situation plutôt que d'utiliser son esprit critique. Il est 12h10. Peut-être que le fait de se dire il est 12h10 et c'est bientôt l'heure de déjeuner, peut-être que chez vous, vous avez instinctivement cette envie de saliver. Ce qui m'arrive également, ce que je dis, bientôt déjeuner. Bon appétit si vous êtes à table. Donc voilà, naissance le 14 septembre de Ivan Petrovitch Pavlov. Le décès, le 14 septembre 1898, donc on est toujours à la fin du 19e siècle, William Burroughs, il a inventé une machine à calculer, lui, à la fin donc du 19e siècle. Il est fondateur d'une compagnie qui s'appelle Burroughs Corporation. Voilà pour cette éphéméride du 14 septembre. Alors, on va donc essayer de faire, pour cette première émission de la reprise de Biotine sur l'antenne de Graphite, un rapide tour de l'actualité de ces dernières semaines pendant cet été. Alors, il y a eu pas mal d'informations scientifiques. On va faire un petit condensé, et essayer de retenir les informations les plus essentielles. L'une des informations qui était vraiment intéressante, on en avait parlé avant de se quitter courant juin, c'était le lancement d'Ariane 6. C'était attendu et ça s'est concrétisé le 9 juillet. L'Europe est enfin de retour en orbite. suite. C'est ça qui est intéressant. Le 9 juillet, le lanceur Ariane 6 a effectué son premier vol de démonstration depuis le centre spatial guyanais à Kourou. C'était un petit peu un moment de vérité et en fait, précisément, le moment qui était vraiment un petit peu crucial, c'était celui de l'ouverture des bras qui délivre les ergols cryogéniques synchronisés avec l'allumage du moteur, un moteur Vulcain, de l'étage principal et de ses deux boosters d'appoint. Séparation de l'étage principal 5 minutes plus tard. Il y a eu le moteur qui, du second étage qui également se sont allumés pour une première fois. Enfin, ça a été vraiment étape par étape et ça s'est bien passé finalement. C'est ça qui est intéressant. Au grand soulagement des équipes, hein, cela a permis de placer Ariane 6 sur une trajectoire balistique de 300 à 600 km au-dessus de la Terre sans poussée supplémentaire. Donc ça s'est fait d'une façon efficace, on va dire. Et après cette phase de, comment dire, d'élévation, hein, ça a duré 35 minutes. Le moteur Vinci a été rallumé une seconde fois et cette nouvelle fonctionnalité d'Ariane 6 a permis de déployer 8 petits satellites sur une orbite circulaire à 500 km d'altitude. Alors, petit bémol au niveau de cette mission, il y a un petit bug qui s'est effectué quelques secondes après un second allumage parce qu'il y a l'unité de propulsion qui a cessé de fonctionner et les données de vol collectées sont toujours en cours d'investigation pour essayer de comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné. L'étage supérieur du lanceur est donc resté en orbite, mais son logiciel embarqué a éteint les fonctions pour éviter tout risque d'explosion. Tant mieux. Les deux petites capsules de test qui devaient être larguées durant cette étape, elles n'ont pas été libérées afin d'éviter un petit peu la création de débris spatiaux supplémentaires, parce qu'on n'aurait pas pu les contrôler. Donc, du coup, on ne les a pas larguées. C'est ce que précise l'Agence spatiale européenne, qui se réjouit cependant de cette dernière séquence complexe qui, je cite, a démontré un fonctionnement optimal du mode backup. Ce premier vol d'Ariane 6, parce que c'était un petit peu l'inauguration d'Ariane 6, ça redonne un petit peu à l'Europe une autonomie d'accès à l'espace qui lui avait fait défaut après la guerre en Ukraine et le retrait en 2022 des lanceurs russes Soyouz de Kourou. Et donc, ça a un petit peu freiné la progression d'Ariane 6. Le prochain lancement du nouveau lanceur lourd est prévu pour décembre de cette année, donc on essaiera de suivre bien sûr cette actualité, en vue sans doute de déployer un satellite de reconnaissance du ministère de la Défense français, mais déjà le carnet de commandes d'Ariane Group affiche 29 contrats de lancement, hein, c'est intéressant, hein, ça permet de relever un peu la tête face à la mainmise des Américains sur le marché. Voilà notamment cet article de Science et Avenir de septembre qui, donne un petit peu les explications du succès de ce premier lancement d'Ariane 6. Il y avait même quelques photos intéressantes. Vous avez pu suivre, je l'espère, peut-être le décollage. Vous avez pu voir comment ça s'est passé. Ça a été l'un des rares moments pendant cet été où on a un petit peu parlé de science et d'espace. Et c'est tant mieux. Lancement donc d'une façon efficace d'Ariane 6. Voilà, j'ai oublié de dire, comme nous sommes en direct, vous pouvez, si vous le souhaitez, réagir en direct par SMS 06 95 060 065 026 06 95 065 026, uniquement par SMS si vous souhaitez réagir sur l'actualité scientifique ou nous envoyer quelques messages sur l'antenne de Graphite. N'hésitez pas. On va parler encore d'espace parce que j'ai un petit peu l'impression que l'espace était quand même au cœur de cette actualité scientifique estivale. En fait, estivale non, parce que là, ça date quand même de cette semaine et je pense que vous avez dû voir les images un petit peu passionnantes de cette première sortie spatiale d'astronautes civils. Faut dire qu'il y avait un temps où l'astronautique, c'était le domaine réservé aux agences spatiales, d'État, on va dire. Eh bien, ce temps est désormais révolu avec donc ce succès de la première sortie spatiale extravéhiculaire en scaphandre 100% privé, c'est la première fois de l'histoire, c'est la mission Polaris Dawn, c'est un tournant dans l'exploration spatiale habitée. Il y a eu le milliardaire Jared Isaacman et la directrice des opérations spatiales chez SpaceX, elle s'appelle Sarah Gillis, et ils ont donc sont tous deux sortis l'un après l'autre du vaisseau Crew Dragon Resilience. Alors, Ça inclut de nombreuses opérations de préparation avant et après les sorties. Et donc, cette sortie spatiale a duré 1h46 minutes précisément. Ça s'est passé ce mardi. Vous avez peut-être vu les images totalement fascinantes de ces astronautes civils. La mission Polaris Dawn a décollé de Cap Canaveral mardi à 11h23 heure française. Depuis, le vaisseau Crew Dragon Resilience et ses 4 astronautes ont réalisé de nombreuses opérations, ce qui incluait un rehaussement d'orbite jusqu'à l'apogée de 1400 km d'altitude. C'est un record depuis les missions Apollo. Les 4 passagers ont pu réaliser plusieurs expériences. Ils ont pu discuter avec leur famille. Ils ont pu surveiller les radiations lors de la traversée de la zone d'anomalie de l'Atlantique Sud, qui est fortement exposée aux particules chargées. Donc, ils ont pu surveiller et regarder tout ça. Le vaisseau est ensuite revenu sur une orbite basse pour pouvoir effectuer ce qu'on appelle cette EVA, hein, cette sortie spatiale extravéhiculaire en scaphandre. Alors, pour pouvoir réaliser cette sortie, ça ne se fait pas comme ça. Bien sûr, l'équipage s'est d'abord habitué à respirer de l'oxygène pur. Ça doit être sympa quand même, respirer de l'oxygène pur, mais en tout cas, il fallait quand même s'habituer à ça. Et SpaceX réduisait la pression à l'intérieur du vaisseau, parce qu'il n'y a pas de sas. Donc, il fallait plonger l'intérieur du vaisseau dans le vide pour cette sortie particulière. C'est ça qui est un petit peu périlleux dans cette histoire. Et lors des premiers jours en orbite, les astronautes ont également testé leur scaphandre. Et c'est dans une atmosphère très sérieuse que les préparations finales ont débuté. Ils ont enfilé leur combinaison. Les astronautes ont procédé à une série de vérifications avec le centre de contrôle de SpaceX avant de réorienter les sièges en direction du sas de sortie. Le feu vert final a été donné à 12h13, heure de Paris. Et la sortie a commencé à ce moment-là. Alors, avant d'ouvrir le sas, les combinaisons des astronautes ont été mises sous pression, puis l'intérieur du vaisseau a été mis sous vide. Ça devait faire quand même un drôle d'effet. Et après vérification, on a pu donner le feu vert à 12h43 pour l'ouverture de la trappe, qu'on va faire de façon manuelle. On s'est dit, tiens, ils vont appuyer sur un bouton et la porte va s'ouvrir d'une façon majestueuse. Non, ils ont dû ouvrir la porte eux-mêmes de façon manuelle, 6 minutes après, à 12h49. Et c'est donc Jared Isaacman, le milliardaire et le commandant du programme Polaris, qui sort du vaisseau à 12h52. Il devient ainsi le premier astronaute privé à réaliser une sortie extravéhiculaire dans l'espace. Et donc, à peine après avoir sorti la tête, Jared Isaacman a testé la flexibilité de son scaphandre. Par mesure de prudence, sa sortie a duré 7 minutes au cours desquelles il est en partie resté dans le sas, tandis que le vaisseau traversait l'ombre de la Terre. Ça devait être quand même une sensation totalement géniale. Et il est retourné à bord. Il a laissé sa place à donc Sarah Gillis, la directrice des opérations spatiales chez SpaceX. Elle devient donc la seconde personne privée, bien sûr, à réaliser cette sortie extravéhiculaire. Elle a testé aussi la maniabilité de son scaphandre, tandis que le vaisseau résilient survolait la Nouvelle-Zélande. C'était toujours en pleine nuit. Les deux autres passagers, on va quand même donner leur nom. Il y a Scott Potate et Anna Menon qui sont restés en soutien dans le vaisseau. Et tandis qu'elle retournait à bord, Sarah Gillis a fait des vérifications de la trappe avant de la fermer derrière elle, et après cela, la pression à l'intérieur du vaisseau, elle est remontée. On est donc revenu dans des conditions, normales, et cette sortie extravéhiculaire a donc pris fin à 14h, donc ça s'est fait un petit peu en 2h de temps. Presque 60 ans après la première sortie extravéhiculaire de l'histoire, c'était le cosmonaute Alexei Leonov. 60 ans après, cette sortie 100% commerciale, bien évidemment, qui était risquée, est quand même une première historique, un succès assez intéressant qui annonce un tournant dans le monde de l'astronautique. Désormais, il est clair que les sorties extravéhiculaires ne sont plus l'apanage exclusif des agences spatiales d'État. Polaris Dawn n'est que la première mission du programme d'astronautique privée lancé par Jared Isaacman. D'autres missions vont suivre. Ça sera aussi l'occasion pour SpaceX de renforcer son expertise des vols habités. Vous avez peut-être vu ces images-là, assez impressionnantes. Alors, c'est certes impressionnant, ça doit être une expérience totalement unique, bien évidemment. J'ai pas très bien regardé, je me suis pas renseigné, mais je pense qu'il y a quand même une certaine phase préparatoire assez intense, parce qu'on doit pas quand même sortir comme ça, uniquement avec une combinaison. Je pense qu'à mon avis, il faut quand même avoir à la fois le physique, mais aussi peut-être l'esprit, la mentalité, pour pouvoir supporter ce genre de conditions assez exceptionnelles, bien évidemment. Mais voilà, ça s'est passé cette semaine, et on en parle bien sûr dans cette émission de Biotine sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine, qui est une émission de science, mais aussi une émission musicale. On va découvrir ensemble la nouvelle playlist de Graphite. Je découvre avec vous un petit peu les titres qu'on va écouter lors de cette émission, et puis on se retrouve juste après pour continuer bien sûr à feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique. À tout de suite. Stalag 17, c'était Ansel Collins sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM. Graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet en direct ou en différé avec les podcasts. Il y a également la rediffusion de cette émission tous les mardis matin à 10h, bien sûr, sur l'antenne de Graphite. Graphite que vous pouvez retrouver. Il y a le stand Graphite sur le forum des associations de Compiègne en ce moment même. Donc n'hésitez pas à rencontrer l'équipe de Graphite sur ce forum, et ça vous permet de découvrir un petit peu nos visages, tant qu'à faire, ça peut être sympa, pourquoi pas. Alors, on continue avec cette information, c'est-à-dire que personne n'a pu l'observer, mais il était ressenti dans toute la croûte terrestre. C'était l'année dernière, en septembre 2003, il y a eu un gigantesque glissement de terrain qui a entraîné l'effondrement d'un pic montagneux d'1,2 km dans le fjord reculé de Dickson, c'est au Groenland, et on le sait que maintenant, le choc a soulevé de l'eau à 200 mètres de hauteur. Ça a provoqué un méga tsunami avec une vague initiale qui a atteint plus de 100 mètres de hauteur. qui s'est abaissé à 7 mètres dans les minutes qui ont suivi. Donc ça a été soudain, ça a été violent, ça a été très violent. Et la conséquence, c'est un signal sismique inhabituel qui a été enregistré pendant 9 jours à travers toute la croûte terrestre. C'est une vibration vraiment singulière, de fréquence totalement monotone. Ça a été détecté par des sismomètres dans le monde entier, des pôles jusqu'à l'équateur, et ça a intrigué un petit peu les scientifiques. Les chercheurs ont uni leurs forces au sein d'un groupe multidisciplinaire unique qui réunissait 68 scientifiques de 40 institutions différentes, de 15 pays différents, qui ont combiné les données des sismomètres et des infrasons. Ils ont également combiné des mesures sur le terrain. Il y a une imagerie terrestre, une imagerie satellitaire. Tout ça a été analysé. Il y a eu des simulations également de vagues de tsunami qui ont été effectuées. C'est ce qui explique le communiqué. Et ils ont donc rédigé un article qui a été publié il y a quelques jours dans la revue Science, qui montre que l'augmentation des températures a fragilisé le glacier qui n'a pas pu maintenir la paroi rocheuse au-dessus. Et donc, ça a entraîné ce glissement de terrain. La montagne s'est donc effondrée dans un fjord étroit et sinueux, ce qui a provoqué un effet un petit peu de bascule de l'eau qui l'a fait osciller d'avant en arrière. Et les chercheurs ont utilisé des modèles mathématiques pour simuler cette dynamique et expliquer donc ce fameux signal sismique qu'on a pu mesurer pendant 9 jours d'affilée. C'est quand même assez impressionnant. 9 jours d'affilée, ça explique, ça témoigne de la violence vraiment de ce qu'il s'est passé. Le tsunami a causé des dommages jusqu'à 70 km de l'épicentre, notamment au niveau d'une base de recherche où des vagues de 4 mètres ont détruit des sites culturels et archéologiques. Alors heureusement, il n'y a aucun bateau de croisière qui se trouvait dans le fjord à ce moment-là. Tu m'étonnes parce que ça aurait pu être totalement désastreux. Donc il n'y avait personne à ce moment-là. Donc c'est aussi un petit peu pour ça qu'on s'en est pas rendu compte. Le phénomène est extrêmement impressionnant, extrêmement dangereux bien évidemment. Et il est appelé à se reproduire de plus en plus souvent. Et ça doit autant pousser à la surveillance accrue de régions qui étaient avant considérées comme stables. Eh bien, c'est plus le cas. Il y aura donc des mesures drastiques pour endiguer la progression extrêmement rapide de cette crise climatique dont l'homme est responsable. On en parle dans cette émission depuis maintenant des années, on en parle presque toutes les semaines, et donc là c'est encore une illustration de ce réchauffement climatique, avec cette conséquence donc directe de ce glissement de terrain au Groenland, un méga tsunami et la Terre qui a vibré pendant 9 jours. Et on l'a appris donc que maintenant, enfin on l'a appris, on a compris que maintenant ce qu'il s'était passé au niveau du Groenland. Autre information, et ça a été annoncé dans le courant de la semaine il me semble, en tout cas je l'ai entendu sur des radios nationales, ces idées qu'ont parfois les chercheurs, un petit peu des idées assez curieuses. Ils ont voulu rendre les choses transparentes, et notamment les êtres vivants. C'est curieux, c'est un peu fou, mais c'est bien ce qui s'est passé. Et c'est ce que les biologistes de la Fondation scientifique nationale américaine et l'Université de Stanford aux États-Unis sont parvenus à faire avec notamment une souris. Ils ont réussi à rendre une souris transparente. C'est là encore dans la revue Science qu'il y a un article qui explique comment ces biologistes ont utilisé comme protocole expérimental. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils ont utilisé un simple colorant alimentaire pour rendre la peau et les muscles d'une souris temporairement transparents. L'objectif, c'était de faire apparaître les organes pour éventuellement localiser une blessure, pour poser un diagnostic, surveiller les troubles digestifs, identifier, voire soigner une tumeur cancéreuse. Donc effectivement, les applications sont assez intéressantes. Mais pour comprendre, il faut savoir que si on ne peut pas voir à travers notre peau, c'est à cause d'un phénomène que les physiciens appellent la diffusion de la lumière, parce que les constituants de la peau ont des indices de réfraction. Donc ça définit un petit peu la lumière, ça réfléchit la lumière. La lumière ne peut pas traverser, elle est automatiquement renvoyée vers l'extérieur. Et donc on n'a pas ce phénomène de transparence. Et on a donc cette impression un petit peu d'opacité, donc on ne voit pas ce qui se passe derrière. C'est un petit peu comme en plein brouillard, nous explique cet article de Futura Science, qui revient sur cette expérience totalement étonnante, on va dire, c'est que les chercheurs ont utilisé un colorant alimentaire jaune qui s'appelle la tartrazine. Ils ont donc utilisé cette tartrazine qui, une fois observée par les tissus, donc notamment par la peau, empêche la lumière de diffuser. C'est-à-dire que les molécules de tartrazine, elles font un petit peu comme si elles faisaient disperser ce brouillard. Et donc, elles rendent ainsi les tissus totalement transparents. Et tout ça en frottant uniquement une solution de tartrazine sur l'abdomen d'une souris, une souris vivante. Eh bien, ils ont vu apparaître les intestins en quelques minutes seulement. Enfin, c'est quand même totalement fascinant. Et ils imaginent déjà qu'en injection, eh bien, l'effet pourrait ouvrir encore plus de possibilités. Ce qu'on apprend, c'est que c'est devenu transparent. Et après, ça s'efface. C'est-à-dire le brouillard, entre guillemets, revient. C'est-à-dire que la peau redevient opaque par la suite. Donc, c'est temporaire. Donc, on frotte un peu de tartrazine sur le ventre d'une souris. On voit ce qu'il y a à l'intérieur du ventre. Et puis après, quand on en a fini, eh bien, ça revient de façon totalement normale, entre guillemets. Il y a des images, hein, des vidéos que vous pouvez trouver sur les sites internet qui vous montrent un petit peu comment... Alors, les vidéos, elles ne sont pas totalement, comment dire, c'est pas des vidéos de communication, on va dire, c'est des vidéos d'expérience scientifique. Donc, on ne voit pas toujours tout, on ne comprend pas toujours ce qui se passe, mais en tout cas, c'est quand même assez bluffant. Et la question que l'on peut se poser, c'est qu'on a donc fait ça sur des souris, est-ce qu'on peut faire ça sur l'homme ? Ça serait génial, parce qu'on met un petit peu de tartrazine, et puis on voit à l'intérieur de ce qui se passe, on n'est pas obligé d'ouvrir le ventre, en fait, en gros, pour voir les intestins. Ça aurait une certaine utilité. Et c'est une véritable question. Qui permettrait justement de pouvoir remplacer des techniques de diagnostic assez coûteuses, notamment l'imagerie. Mais la question, c'est que l'usage de colorants peut être nocif et puis la peau humaine, elle n'a quand même rien à voir avec la peau de souris parce que la peau humaine est assez épaisse. Donc, ça veut dire qu'il faudrait mettre un petit peu plus de colorants. Il faudrait un petit peu forcer, entre guillemets, sur le dosage et on n'est pas totalement certain que ça ne soit pas nocif. Donc, on va continuer les expériences. Mais notamment essayer de trouver d'autres molécules qui pourraient être plus efficaces que la tartrazine. Mais en tout cas, cette expérience, elle a donc l'intérêt de se dire on peut trouver une façon de pouvoir voir à l'intérieur d'un corps humain vivant. Hein, donc c'est ça qui est quand même assez intéressant, avec un dispositif assez simple. Hein, on badigeonne un petit peu d'un produit sur la peau, quelque part. Mais pour l'instant, on ne sait pas encore si c'est quand même bien sain, tout ça. Donc on va poursuivre les expériences. Ça donne quand même des pistes assez intéressantes, bien évidemment. Et ça a été annoncé cette semaine, bien sûr. Donc voilà, je vous invite à regarder les vidéos qui sont assez intéressantes de ces souris transparentes. Autre information, alors ça n'a aucun rapport avec la médecine, mais c'était dans le courant de cette semaine, voire peut-être en fin de semaine dernière, on apprend que l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, région bien sûr désertique, subissent de plus en plus régulièrement des inondations dramatiques. L'actualité météo des dernières semaines l'a encore prouvé. Il y a le Maroc qui a connu des inondations catastrophiques et le Sahara a été confronté à des pluies exceptionnelles, localement l'équivalent de plusieurs années de pluie en l'espace de 2 semaines. Vous avez peut-être vu aussi des images totalement... extraordinaire, enfin extraordinaire n'est pas le mot, mais enfin, on est quand même scotché devant l'écran quand on voit un désert qu'on connaît comme un désert et d'un seul coup un désert totalement inondé. C'est assez un peu inhabituel. Hein. Il y a quelques mois, c'est la ville de Dubaï qui a été confrontée à un déluge historique après un violent orage. Et donc, il y a une étude qui a été publiée dans la revue Nature Communications qui a analysé les raisons qui mènent à l'augmentation de la fréquence de ces événements dans le désert. Et en fait, la menace, elle vient de 2 facteurs. La multiplication de ces épisodes de précipitations extrêmes. Donc, bien sûr, il pleut beaucoup trop en un minimum de temps, donc ça peut avoir des conséquences inhabituelles. Et l'autre facteur, c'est l'érosion des sols qui est liée un peu à la progression de la désertification. Et donc ces deux éléments qui peuvent paraître opposés, c'est bien la combinaison de ces deux, c'est-à-dire cette érosion des sols et cette multiplication de ces gros déluges qui mènent aux gigantesques inondations. Le désert devient de plus en plus aride, l'érosion s'aggrave, les épisodes pluvieux plus violents qu'avant se déclenchent régulièrement. Et donc, ils sont incapables d'absorber ces pluies, hein, ces sols désertiques. Ils sont donc submergés par des eaux déchaînées. Et dans les villes du désert, comme à Dubaï, donc, les infrastructures n'ont pas été conçues pour faire face à cette arrivée massive de l'eau. Alors, cependant, les grands déserts d'Afrique et du Moyen-Orient ne sont pas les seuls à subir ce processus lié au changement climatique. Le même problème se pose dans les pays européens, comme l'Espagne, hein, qui subit aussi la désertification et la multiplication d'intempéries pluvieuses ultra-violentes. Et donc, face à l'urgence de faire face à la situation, deux actions sont prioritaires, selon les chercheurs, dans cet article. Utiliser le réseau de satellites météo pour mieux prévoir les intempéries dans les déserts. Hein. Ça manque de couverture météo dans ces zones-là. Et donc, il faudrait être un petit peu plus attentif et observer un petit peu mieux ce qui se passe dans les déserts et adapter les villes à ce risque inéluctable d'inondation. C'est vrai que c'est assez impressionnant. Vous avez des images d'inondation dans les déserts. Enfin, il y a quelques années, on n'aurait jamais parlé de ça. Et puis là, maintenant, ça devient un phénomène pas récurrent, mais en tout cas, ça ne devient pas nécessairement des phénomènes exceptionnels. Et là encore, une illustration concrète de ce qui est en train de se passer sur notre Terre. On va continuer à écouter un petit peu de musique et on va continuer bien sûr à feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique si vous souhaitez réagir sur l'actualité. 06 95 065 026 06 95 065 026 uniquement par SMS si vous souhaitez réagir. On va écouter Proto-Martyr et on se retrouve juste après pour continuer à parler de l'actualité scientifique. On va parler des punaises de lit, ça y est, on a trouvé comment s'en débarrasser, c'est génial. We'll be right back. Let Steve the Creator, c'était Proto Martyr sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine, l'émission d'actualité scientifique tous les samedis entre 12h et 13h et tous les mardis matins pour la rediffusion à 10h sur l'antenne de Graphite. 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM et graphite.net sur Internet, en direct ou en différé avec les podcasts. Graphite, vous pouvez rencontrer l'équipe de Graphite aujourd'hui sur le forum des associations de Compiègne. Il fait beau, allez-y, profitez-en. Graphite qui sera en direct de la fête de la science le samedi 12 octobre entre 14h et 16h. Nous ferons une émission spéciale en direct avec les chercheurs de l'Université de technologie de Compiègne pour voilà, un petit peu comprendre ce qu'il se passe au niveau des laboratoires de l'UTC en ce moment avec pas mal de recherches. La thématique, c'est un océan de savoir. Donc on va pouvoir se baigner dans un bouillon de culture scientifique et ça va être assez intéressant en direct donc à 14h le samedi 12 octobre et le dimanche 20 octobre, Graphite organise déjà sa 13e bourse au disque BD et rétro gaming. Déjà la 13e, ça passe quand même très vite. C'est le dimanche 20 octobre à Margny-les-Compiègnes. Si vous souhaitez participer à cette bourse au disque BD et rétro gaming, vous pouvez bien sûr vous renseigner sur le site graphite.net si vous voulez par exemple être exposant, bien sûr. Donc voilà, pas mal d'actualités. Alors, je pense qu'il y a pas mal d'autres choses encore, mais c'est ce que j'ai sous les yeux au niveau de l'actualité de Graphite, bien sûr. De toute façon, vous nous suivez hein, sur les réseaux pour vous tenir informé de l'actualité de Graphite, hein, Facebook, Instagram et ainsi de suite, bien sûr, pour être tenu informé de l'actualité scientifique, de l'actualité de votre radio curieuse, bien évidemment. Et au niveau de l'actualité scientifique, on l'a appris également pendant cet été. C'est cette découverte française, hein, Cocorico, une découverte qui révolutionne la lutte contre les punaises de lit, hein, dans un contexte où les punaises de lit sont devenues un problème de santé publique dans les pays industrialisés. Il y a donc une étude récente qui apporte un nouvel espoir dans la lutte contre ces nuisibles, je vais y arriver. La solution, c'est ce qu'on appelle la terre de sommière. La terre de sommière, c'est une poudre naturelle qui s'est révélée être aussi efficace et bien moins toxique que certains produits qui sont utilisés par les professionnels. Une efficacité entre 75 et 100%. C'est ça qui est intéressant. C'est une équipe de recherche de Nice qui a travaillé avec l'Institut Méditerranée Infection de Marseille. Donc, ces chercheurs ont publié une étude que l'on pourrait qualifier un petit peu de révolutionnaire dans la lutte contre les punaises de lit. Le docteur Pascal Delaunay et ses collègues de l'équipe de parasitologie mycologie ont mené des travaux sur l'efficacité de différents produits contre donc ces nuisibles qui se nourrissent exclusivement de sang avec une très nette préférence pour le sang humain, bien évidemment, merci. Ainsi, et ils ont comparé pas mal de produits et notamment les effets de la terre de sommière. Ils ont également utilisé de l'argile verte, du talc, du bicarbonate de sodium. Et puis, ils ont également utilisé des produits professionnels comme la terre de diatomée. Eh bien, il s'avère que c'est la terre de sommière qui s'est révélée la plus efficace. C'est une poudre totalement naturelle qui est connue pour ses propriétés absorbantes. Elle est facilement disponible dans le commerce et elle s'est révélée totalement redoutable parce qu'elle provoque la mort des insectes en seulement 1 à 2 jours. C'est quand même génial. Un délai qui permet aux punaises de lit de transporter cette terre de sommière vers leurs congénères qui vont mourir également en quelques jours. Donc c'est assez efficace et c'est assez définitif, bien sûr. Autre avantage, et pas des moindres, et c'est ça qui est intéressant, c'est l'innocuité de ce produit. Hein. Parce qu'avant, on utilisait de la terre de diatomée qui était absorbante et abrasive pour les insectes, mais elle était également abrasive pour nos poumons et pour ceux de nos animaux de compagnie. Eh bien, la terre de sommière ne l'est pas. Et c'est ça qui est assez intéressant. Pascal Delaunay a été interviewé dans différents médias, et notamment par Le Parisien. Il explique qu'il recommande de propager la terre de sommière sur les sommiers en cas d'infestation de punaises de lit. Les résultats montrent que cette terre de sommière permet de tuer les punaises en 24 heures. Il suffit ensuite de frotter et d'aspirer. Eh bien écoutez, maintenant, ça y est, on sait ce qu'il faut faire. On va plus parler des punaises de lit dans les médias maintenant, quand on saura plus parler de quoi. On parlait des punaises de lit, ben là maintenant il va falloir trouver autre chose. C'est donc découverte française qui est assez efficace contre les punaises de lit. Voilà, on le saura maintenant, retenez bien le nom, Terre de Sommière. Alors, je pense que la formation date du mois d'août, il me semble. À mon avis, il y a dû y avoir une pénurie de Terre de Sommière, parce que tout le monde a dû se précipiter sur la Terre de Sommière pour comment dire, être en avoir en cas de besoin. Donc ils ont dû faire des stocks de Terre de Sommière. C'est peut-être votre cas d'ailleurs, pourquoi pas. Mais en tout cas, ça semble être totalement efficace, donc vous avez peut-être raison. Autre alors, information, il paraît qu'il y a eu des Jeux Olympiques cet été. On n'est même pas au courant, on ne nous dit rien. Je plaisante bien sûr. Bon, ça s'est plutôt bien passé. Ce qui était assez intéressant, alors moi je me suis posé la question et j'ai trouvé cet article notamment dans Futura qui revient sur ce sujet. J'ai trouvé personnellement assez intéressant que les Jeux Olympiques, qui diffuse l'image notamment du sport, l'image du bien-être, de l'effort physique, et qui nous incite quelque part à pouvoir avoir des activités sportives. Enfin voilà, on est quand même sur des messages porteurs de santé assez forts. Je me suis quand même demandé pourquoi on avait comme principal, enfin l'un des principaux partenaires, Coca-Cola. Je trouvais qu'il y avait quelque chose d'assez incohérent, on va dire. J'arrivais pas à faire le lien. Et apparemment, je suis pas le seul à m'être posé cette question, parce qu'il y a eu quand même pas mal de polémiques cet été sur Coca-Cola, qui est un des sponsors, notamment les plus anciens des Jeux Olympiques. Coca-Cola qui parraine depuis l'édition des Jeux Olympiques de 1928. Donc ça va faire bientôt un siècle que Coca-Cola est le partenaire des Jeux Olympiques. Et en continuant de s'associer avec Coca-Cola, le mouvement olympique risque d'être complice de l'aggravation d'une épidémie mondiale de mauvaise alimentation, de la dégradation de l'environnement et du changement climatique. C'est deux chercheuses qui écrivent cela, Triste Cotter et Sandra Mullin, dans une revue scientifique qui s'appelle Global Health. Et donc, ça interpelle un peu, hein, pendant donc les JO de Paris, eh bien, le géant américain des sodas a déjà été mis en cause pour son usage intensif de récipients en plastique. On a appris ça également. Il y avait plein de récipients en plastique pour des jeux qui voulaient être vertueux au niveau de l'écologie. Et Coca a justifié cela par des contraintes techniques et logistiques. C'est ce qu'on nous dit. Et donc cet article de ces deux chercheuses, lui, met l'accent sur les problématiques de santé, soulignant que Coca-Cola vend des boissons sucrées à l'intérêt nutritionnel faible ou inexistant, nous parle l'article. Les sodas sont l'un des principaux moteurs de pathologies répandues dans le monde entier, comme l'obésité ou le diabète. C'est ce que soulignent donc ces deux chercheuses, qui appellent le Comité international olympique à rompre ses liens avec Coca-Cola. Alors, il a été interrogé par l'AFP, le groupe américain. Il a dit adapter, je cite, en permanence sa gamme de produits en réduisant les sucres ajoutés. Très bien, on prend note. Il a également estimé que ces financements aux JO sont, je cite, cruciaux pour permettre aux athlètes du monde entier de s'entraîner, de se préparer, de participer aux Jeux. Fin de citation. Alors, au-delà des Jeux Olympiques, eh bien, cet article de ces deux chercheuses dans Global Health souligne la place particulièrement importante de Coca-Cola dans les partenariats sportifs. Aucun autre groupe n'en détient autant, y compris des entreprises qui ont une activité qui est directement liée au sport. Par exemple, on peut penser à Nike ou Adidas. Par exemple, bien non, Coca-Cola, lui, c'est lui qui a quand même le plus de partenariats sportifs. Et cette stratégie permet justement à Coca-Cola de ce qu'on appelle sportwasher. Alors, c'est un terme un petit peu nouveau qui est un petit peu sur le côté du greenwashing. Donc là, on a le sportwashing, c'est-à-dire que on peut mettre une espèce de couche de ripollinage c'est un petit peu cette idée que si c'est le sport et que c'est le message qu'il faut faire passer, même si en même temps on boit des boissons totalement sucrées et qui sont plutôt mauvais pour la santé, sont les termes là encore des chercheuses de l'organisation qui ont justement insisté sur cette incohérence. Et on a interrogé le CEO, parce que le CEO, il faisait souvent des conférences de presse quotidiennes pendant les JO de Paris. Donc à un moment, quelqu'un a posé la question. Et le CEO a donc répondu, se disant, je cite, « incroyablement fier » du partenariat centenaire avec la marque. Et donc, on explique, hein, le CEO explique, ils fournissent une gamme complète de produits, eau, thé, café, jus de fruits, boissons gazeuses. Il y a donc beaucoup d'options sans sucre. C'est ce que nous dit le CEO, et notamment Anne-Sophie Boumar, qui est la directrice des services de marketing et de télévision du CEO. Donc, circuler, il n'y a rien à voir, hein, parce qu'ils bah, distribuent de l'eau, donc ça va, il n'y a pas que du sucre. Ok, très bien, même si la ministre des Sports français, démissionnaire, encore ce jour, Amélie Oudéa-Castéra avait déjà été critiquée fin 2023, notamment par des médecins pour avoir publié des photos d'elle en compagnie de représentants de Coca-Cola. Et elle avait reconnu, je cite, un choix malheureux en matière d'image, et elle récusait toute complaisance avec le groupe. Alors, voilà, c'est, d'un point de vue scientifique, c'est assez intéressant, parce que alors, on comprend très bien l'aspect purement économique du sujet, hein, on n'est pas idiot, on a bien compris que Coca apportait pas mal d'argent, qui était utile à beaucoup de monde. Donc on ne peut pas enlever un partenariat comme ça, parce que s'il n'y a plus, on a l'impression de nous dire que s'il n'y a plus de Coca, il n'y a plus de JO. Ok, très bien, alors d'autres vont payer. Alors qui ? On n'en sait rien. Mais la question est assez intéressante d'un point de vue de santé publique. Et bon, on voit très bien que les questions sont posées, que les réponses ne sont pas totalement, comment dire, judicieuse qu'on répond à côté, en clair. C'est ça qui est assez flagrant. Mais voilà, je m'étais posé la question et quand j'ai un petit peu, pour préparer cette émission, regardé ce qu'il y avait sur les sites internet, je suis donc tombé sur cet article scientifique qui reprenait un petit peu ce sujet. Alors, il y avait aussi Total qui avait, lui, été exclu des JO par la maire de Paris, qui ne voulait pas associer Total à des JO qui étaient vertueux en termes d'environnement. Et donc là, on se pose la même question au niveau de Coca-Cola. Bah écoutez, pour l'instant, en plus, comme les prochains JO d'été ont lieu à Los Angeles, pardon, je n'ai pas trop l'impression que Coca va être éliminé des JO de Los Angeles. Je ne crois pas. J'en sais rien, après tout. Mais on verra ça. Je trouvais assez intéressant ce sujet, bien évidemment. Il est presque 12h54. Ben, j'ai un petit peu l'impression qu'on va finir... Non, on va terminer juste par ce petite information, parce que du coup, je parle tellement que j'avais prévu de vous parler de la variole du singe. Mais écoutez, on en parlera la semaine prochaine. On parlera la semaine prochaine de la Chine. Il y a pas mal d'informations au niveau de la Chine. Il y a une fusée chinoise qui a explosé dans l'espace. Et puis, il y a des centaines et des centaines de débris qui sont maintenant dans l'espace à cause de ça. Et la Chine, où on apprend qu'il y a plusieurs virus à haut risque qui ont été découverts dans des élevages d'animaux à fourrure. Ça nous rappelle quelque chose, ça. Je ne sais pas. En bref, on en parlera de ça la semaine prochaine. Je voulais juste avant de nous quitter, terminer par cette information qui nous vient aussi de Chine. Je vous disais en ouverture de cette émission que la Chine était, au niveau de l'actualité scientifique, assez au cœur de l'actualité, bien sûr. C'est le cas donc avec cette information qui concerne le train du futur avec une vitesse qu'on estime à 1000 km/h. C'est l'objectif du futur train à sustentation magnétique chinois qui est développé par la China Aerospace Science and Industry Corporation. Oh là là, je suis bon en anglais. C'est en partenariat avec la province du Shaanxi. Ça se passe dans le nord de la Chine. Il y a eu des essais qui ont été menés, qui ont démontré la bonne adéquation entre la théorie et la pratique en termes de vitesse et de hauteur de suspension de l'engin. L'idée, en fait, ça ressemble un petit peu à ce qu'on appelait l'hyperloop. On en avait parlé dans cette émission il y a quelques années de l'hyperloop, ces espèces de gros tunnels où il y avait, comme genre de capsule, je ne sais pas comment expliquer, une grosse gélule qui circulait à très très vite, à très grande vitesse justement, pour avoir un nouveau moyen de locomotion assez efficace. Et c'était Elon Musk qui avait lancé ce sujet, un sujet un petit peu morné parce que ça n'existe plus maintenant, ça pourrait se réaliser en Chine, tout simplement parce que la Chine a des dimensions et une démographie qui est assez intéressante, puis une économie aussi qui permet un petit peu de se lancer dans ce genre d'aventure à grande échelle. Et donc, il y a eu des essais qui ont été menés. Donc, la Chine s'investit sur ce sujet. Il y a un autre essai qui a été réalisé sur une section de 60 km qui est en cours de construction, qui va avoir lieu. Donc, on suivra bien sûr les informations. Et l'idée, c'est de permettre à ce train expérimental d'atteindre donc des vitesses de pointe de 1000 km/h Enfin, 1000 km/h, c'est quand même assez intéressant. L'objectif commercial final serait de relier des grandes villes, comme aller de Pékin à Shanghai en 1h30. Et le trajet entre Pékin et Shanghai, c'est 1100 km. Et donc, on ferait 1100 km en 1h30. C'est assez intéressant, effectivement. Sur le papier, c'est quand même pas mal. Technologiquement, c'est aussi intéressant. Un petit peu près derrière, il y a quand même des infrastructures qu'il va falloir mettre en place. Il y a une vidéo qui existe et qui permet de voir cette troisième phase de test qui pourrait bien être envisagée avec une vitesse ahurissante de 4000 km/h. Donc on est totalement sur des projections totalement bluffantes. Donc bon, on est très très loin encore. Là, c'est des simulations et c'est des projections, bien évidemment. Mais ça peut être quand même des vitesses totalement improbables qui entraînent aussi des risques de danger aussi assez accrus. Donc on va essayer de modérer peut-être un petit peu tout ça. Mais en tout cas, la vitesse de 1000 km/h pourrait être atteinte. On suivra bien sûr tout cela parce qu'on est vraiment dans des phases de test, d'essai, de construction, de prototype. Mais on suivra bien sûr tout ça parce qu'on avait suivi ça il y a quelques années aux États-Unis. Ça n'a pas fonctionné. Peut-être une question d'argent qui fait qu'on n'a pas investi assez sur ce sujet qui, au départ, était une idée un petit peu d'Elon Musk. Mais la Chine reprend cela et pourrait donc être sur le point de révolutionner les transports avec un train qui circulerait à 1000 km/h. Bah écoutez, on verra ça et on suivra ça, bien sûr, dans cette émission Biotine. C'est la fin de cette émission, les 12h58. Nous étions en direct aujourd'hui pour la reprise de cette émission, pour cette nouvelle saison 2024-2025 sur l'antenne de Graphite. Je vous retrouve samedi prochain à 12h pour une nouvelle émission de Biotine sur l'antenne de Graphite, bien évidemment. On se retrouve mardi matin aussi à 10h pour ceux qui nous écoutent pour la rediffusion. Et je rappelle donc que Graphite se trouve en direct sur le stand du Forum des associations de Compiègne. Donc si vous passez par Compiègne, arrêtez-vous sur le Forum des associations et vous rencontrerez les équipes de Graphite que j'embrasse, si les équipes nous écoutent, bien sûr. Je vous embrasse également, chers auditeurs. On se retrouve samedi prochain. D'ici là, bien sûr, vous restez fidèles à l'ensemble des émissions de Graphite. Bonne journée, à bientôt, au revoir.